France Culture. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Une émission préparée avec Léa Capuano, Joséphine Reynartz, Barthélémy Gaillard, Gwendoline Troiano et Antoinette Benoît, réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Clara Galivel. À 11h20, on retrouve la table ronde d'actualité co-animée avec Marc Semo, notre partenaire du Monde. Bonjour Marc.
Bonjour.
Nous évoquons ce matin la situation au Yémen où les États-Unis mènent des frappes aériennes depuis le 15 mars contre les houthistes afin de faire cesser leurs attaques contre les navires et le commerce en mer Rouge. Attaques menées au nom de la solidarité avec les Palestiniens mais qui s'inscrivent aussi dans un jeu régional complexe. Nous en discuterons avec nos invités Laurent Bonnefoy. Bonjour.
Bonjour.
Et que je présenterai plus en détail tout à l'heure. Et Quentin Muller, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous. Rendez-vous donc dans une vingtaine de minutes. Et pour commencer, place au retour de terrain dans un format un peu spécial puisque nous allons évoquer un terrain inaccessible à la presse internationale. Bonjour Frédéric Mettezo.
Bonjour.
Ancien correspondant de Radio France à Jérusalem, vous êtes aujourd'hui rédacteur en chef de Forbidden Stories, un réseau international de journalistes dont la mission est de poursuivre les enquêtes et les reportages de ceux et celles qui sont menacés, emprisonnés ou tués partout dans le monde. Et nous allons parler avec vous du travail interrompu de Fadi Al-Waidi, un journaliste gazaoui, aujourd'hui paralysé des deux jambes après s'être retrouvé sous les tirs alors qu'il documentait une incursion de l'armée israélienne à Jabalia en octobre dernier. Et en cette veille de la Journée mondiale de la presse, de la liberté de la presse, samedi 3 mai, nous allons parler de ce territoire devenu inaccessible aux médias internationaux et où l'on dénombre le décès de 170 journalistes palestiniens depuis octobre 2023. Frédéric Mettezo, qui est Fadi Al-Waidi, dont Forbidden Stories a décidé de poursuivre le travail, et que lui est-il arrivé le 9 octobre 2024 ?
Alors Fadi Al-Waidi, il est né en 1999, c'est un encore jeune journaliste, il est reporter et caméraman pour Al Jazeera, il est gazaoui, il est de Jabalia. Jabalia, c'est le plus grand camp de réfugiés de toute la Palestine. Avant l'invasion de Jabalia par l'armée israélienne et l'expulsion d'une très grande partie des habitants, il y avait pas loin de 100 000 personnes qui vivaient là.
Depuis 1948, hein, c'est un camp qui date,
oui,
de 1948.
C'est ça, les camps de réfugiés palestiniens ont été établis en 48, ils ont été grossis par ensuite la guerre des six jours en 1967, et puis comme on sait qu'à Gaza, la démographie est très galopante. Aujourd'hui, il y a plus de 2 millions d'habitants à Gaza, ça fait des camps très très densément peuplés. Donc Fadi Al-Waidi, comme tous ses confrères de Gaza, il couvrait la riposte de l'armée israélienne qui a commencé dès le 7 octobre, hein, après les attaques terroristes commises contre Israël. Donc cette guerre, on l'a dit, elle a fait plus de 55 000 morts. C'est un véritable écrasement, quasi anéantissement des gens qui vivent à Gaza. Et donc, il était en reportage le 9 octobre 2024. Il était en lisière du camp de Jabalia. Il était là pour documenter l'expulsion des civils à qui l'armée israélienne avait demandé de partir. Il n'était pas dans le camp de Jabalia. Il était à quelques hectomètres de la zone parce que le camp de Jabalia était classé zone rouge à évacuer de toute urgence par l'armée israélienne. Et c'est là qu'il a pris une balle dans le cou, qui lui a sectionné la moelle épinière et qui l'a laissé paralysé.
Selon les clichés d'imagerie médicale que vous avez pu vous procurer, la balle a été tirée depuis un point en hauteur. Ses collègues affirment qu'ils ont été visés par un drone. Et donc vous avez enquêté en recoupant à la fois témoignages, images sur les circonstances de ces tirs. Mais le fait que le tir est provenu d'un drone n'a pas pu être confirmé.
Oui, c'est ça, c'est très important ce que vous dites, c'est que on a voulu varier au maximum les sources, les personnes à qui nous avons parlé et les supports. D'abord, on a Fadi lui-même Nous avons envoyé quelqu'un, un Gazaoui, qui habitait tout près de l'hôpital où il était hospitalisé, parce qu'il était hors de question de demander à quelqu'un de parcourir des kilomètres dans Gaza bombardé, qui est allé interviewer Fadi. On lui avait préparé une liste de questions. Cette personne a posé les questions, a filmé l'interview avec son smartphone. Donc nous avons d'abord le témoignage de Fadi. Ça, c'est très important. Ensuite, on a le témoignage de plusieurs de ses collègues qui l'accompagnaient, qui nous ont tous décrit la même chose. Ensuite, on a tout le travail de sources ouvertes, c'est-à-dire les vidéos sur les réseaux sociaux, les vidéos tournées par Fadi lui-même ou par certains de ses amis. On a récupéré des vidéos qui n'avaient jamais été publiées, directement envoyées par les gens depuis leur smartphone. On a fait aussi tout un travail de cartographie. Je vous disais, l'endroit où il se trouvait, c'était très important. Il nous dit qu'il était dans telle rue, à tel rond-point, mais à un moment, quand vous faites une course parce que vous vous faites tirer dessus, vous savez plus précisément. Donc, on a disséqué image par image où c'était. Après, moi, j'appelais des gens pour leur dire est-ce que cette pompe à essence, c'est bien telle station d'essence? Donc, il y a tout ce travail de sources ouvertes. Et puis, vous l'avez dit, les rapports médicaux écrits par les médecins gazaouis puis égyptiens, parce qu'il a été soigné en Égypte, qui ont permis de déterminer d'abord que la balle a été tirée en hauteur. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, d'où pouvait venir cette balle? Et c'est là qu'on a tout un faisceau d'indices concordants, comme on dit, qui tendent à penser et à conclure que c'est un tir israélien. Les gens nous ont dit il a été visé par un quadcoptère. Un quadcoptère, c'est un sniper drone ou un drone sniper, c'est-à-dire un drone qui fait un tir de précision. On sait que ces appareils existent. L'armée israélienne a dit qu'elle les testait. Ça a été révélé par Haaretz. Mais effectivement, nous n'avons pas de cliché du drone en action. Mais tous les témoins nous disent c'est un drone qui a tiré. Fadi est le premier à nous le dire. On voit quand Fadi est blessé que tout le monde regarde dans l'air. Et dernier élément très important, on a sollicité l'armée israélienne qui n'a pas voulu répondre. On a envoyé une dizaine de questions très précises, mais contacté par un des partenaires de Forbidden Stories, France 24, qui avait demandé à l'armée israélienne sur, d'une façon générale, si l'armée utilisait des drones. La réponse voulait dire quand même quelque chose. L'armée a répondu « Utilisez-vous des sniper drones ?» Malheureusement, ce n'est quelque chose que nous ne pouvons évoquer.
Est-ce que l'identité presse, l'identité journalistique de Fadi Al-Waidi était visible le 9 octobre au moment où il se retrouve sous les tirs ?
Complètement. Il avait ce gilet bleu, je ne vais même pas dire gilet pare-balles parce que ce n'est pas avec les plaques, mais ce gilet bleu qu'on connaît très bien, siglé presse en anglais, tout à fait lisible, tout à fait identifié. Oui.
Donc Fadi Al-Waidi documentait le déplacement des civils suite à l'incursion de l'armée israélienne, la troisième le camp de Jabalia le 6 octobre. Comment et pourquoi est-ce que vous décidez avec Forbidden Stories de reprendre son travail interrompu, son travail à lui? Pourquoi?
Alors c'est la mission de Forbidden Stories, vous l'avez dit en début d'émission, nous sommes là pour poursuivre les enquêtes inachevées et nous, ça nous paraissait très important de raconter l'expulsion des habitants de Jabalia, de pas seulement dire X milliers de personnes sont parties, elles ont quitté Jabalia pour aller à Khan Younis, parce qu'il y a un côté un peu désincarné. Nous, on voulait vraiment des témoignages incarnés, des témoignages au ras du sol, comme si nous étions à la place de Fadi. Nous, ça nous semblait très important de pouvoir raconter ça à hauteur de Gazaoui, comme l'aurait raconté Fadi, et c'est ce qu'on a fait.
Alors, vous parvenez à recueillir certains témoignages d'habitants du camp qui ont fui, la plupart sont traumatisés. De quoi témoignent-ils? Que vous disent-ils qu'ils auraient pu dire à Fadi Al-Waidi?
Il nous raconte d'abord les destructions extrêmes de Jabalia. Vraiment, c'est en miettes au sens littéral du terme. Ça, c'est la première chose. Il nous parle ensuite de la permanence des tirs, de la permanence des bombardements, c'est-à-dire dès que vous mettiez le pied dehors, en dehors du corridor très strict défini par l'armée israélienne, ça tirait. Ensuite, c'est l'extrême dénuement des populations. On nous a raconté, et donc on a répercuté ça, que l'eau est sale, et donc ça peut donner des maladies, que la nourriture est très rare. Et puis, l'extrême violence de ce siège, vous parlez d'incursion, c'est plus qu'une incursion, c'est une invasion, c'est un siège et c'est une destruction systématique du camp de Jabalia. On n'a pas voulu censurer la dureté des choses. On a par exemple le témoignage, on nous raconte l'histoire d'une mère dont le petit garçon de 9-10 ans a été tué. Le corps du petit enfant est dans la rue devant la maison. Impossible d'aller chercher le corps parce que dès que vous approchez, vous vous faites tirer dessus et le corps était à la merci des chiens errants. Donc c'est très dur à entendre, c'est très dur à raconter, mais c'est nécessaire, c'est ça le reportage et c'est ça le reportage de guerre.
Le Gaza est un territoire qui est aujourd'hui interdit d'accès à la presse étrangère, et ce depuis octobre 2023, sauf à quelques exceptions. Et parmi ces exceptions, il y a eu le 13 janvier une excursion organisée par l'armée israélienne avec quelques journalistes étrangers qui ont pu se rendre quelques heures à Jabalia, sous étroite surveillance de l'armée israélienne. Parmi eux, il y avait Sami Bourhelifa, qui est correspondant de RFI à Jérusalem, avec qui vous collaborez. Il connaissait ce lieu avant la guerre. Comment le décrit-il ? Qui a-t-il vu ?
Oui, c'est très important ce que vous dites. Sami fait partie donc de RFI, Radio France Internationale, qui était l'un de nos partenaires pour ce Gaza Project. On a travaillé avec, au total, près d'une vingtaine de rédactions du monde entier pour documenter ce qui se passait. Donc, il a participé, effectivement, à ce qu'on appelle un embedded, c'est-à-dire vous êtes encadré par l'armée. Donc, il a pu filmer Jabalia, évidemment dans des conditions d'encadrement très strictes. Hein, les militaires israéliens sont là, ils regardent ce que vous faites et vous avez interdiction de parler aux Palestiniens. Malgré tout, on a estimé que c'était important d'utiliser les images qu'il nous a fournies. Il fait de la radio, mais il fait aussi de l'image, parce qu'il a pu filmer les destructions. Et c'est vrai que c'est des destructions d'une ampleur qu'on a du mal à imaginer. Et il nous a décrit, donc, dans l'article qu'on a consacré à Jabalia, il me l'a raconté aussi pour débriefer son retour, il me disait, par exemple, les routes n'existent plus. C'est même plus des routes. C'est un tas de gravats. C'est une décharge à ciel ouvert de gravats, de poussière, de poutrelles, de gravier, de sable. Et donc, il connaissait Jabalia d'avant. Je connaissais Jabalia. Il me dit, tu ne pourrais même pas reconnaître. Il y a plus rien qui est comparable. C'est un immense champ de ruines. Donc, c'est ce qu'il a pu nous raconter et c'est ce qu'il a pu aussi filmer. Évidemment, dans les conditions d'encadrement très strictes, mais là, nous avons choisi de dire qu'entre pas d'images du tout et quelques images au goutte à goutte comme ça, il fallait avoir ces images au goutte à goutte pour accompagner les témoignages humains qu'on avait.
Et puisque ces reportages encadrés par l'armée israélienne ne sont pas suffisants, ne sont pas satisfaisants pour rendre compte de la réalité du territoire, il y a donc le travail que vous menez à distance via des sources locales. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour travailler à distance à Gaza, comment est-ce qu'on vérifie la fiabilité des informations, des sources? Comment est-ce qu'on s'assure aussi que les témoignages, qu'il s'agisse de civils, de journalistes palestiniens, ne sont pas aussi eux-mêmes sous surveillance, sous pression du Hamas?
Alors cette question, elle se pose pour Gaza, mais elle pourrait se poser pour l'Ukraine, elle se pose pour toutes les guerres, et en vrai, elle se pose pour tous les reportages, la fiabilité des sources. Alors d'abord, le fait de travailler sur le Gaza Project avec des journalistes du monde entier, ça nous a permis de maximiser. C'est-à-dire, on avait un maximum de contacts, de personnes à joindre. Donc, c'était des personnes qu'on connaissait déjà, avec qui on avait pu travailler précédemment. Donc, on avait confiance en elles. Ça, c'est la première chose.
Donc, avant la guerre, c'est basé sur l'antériorité de la fiabilité d'une relation.
C'est ça. Des gens que nous connaissions déjà. Que ce soit moi-même maintenant à Forbidden Stories, précédemment à Radio France, que ce soit les contacts de Dit Site, du journal Le Monde, de France 24, etc., de RFI. Première chose, des sources humaines fiables. Deuxième chose, nous avons travaillé avec un journaliste palestinien que nous avons fait travailler le temps de ce Gaza Project. Lui est basé en Cisjordanie, mais il connaissait Gaza par cœur. Il était connu à Gaza, et le fait qu'un Palestinien puisse téléphoner en arabe palestinien à des Palestiniens de Gaza, ça a mis ces personnes à Gaza en confiance. Et elles se sont senties plus à l'aise, elles ont pu plus facilement parler.
On va citer son nom, il s'agit de Samer Chalabi.
Exactement.
Qui est basée en Cisjordanie.
Exactement, donc qui passait des dizaines de coups de fil à Gaza, qui faisait des visios, etc., etc., et qui nous envoyait les interviews. Ensuite, la vérification, mais oui, la vérification, c'est une vérification, si possible, un double check, si possible, un triple check, effectivement.
Vous dites si possible, c'est très important parce qu'on sait que les conditions de vie et de survie priment aussi pour toute personne qui vit à Gaza, qu'elle soit journaliste ou pas, et que ça rajoute de la difficulté à faire ce travail de base, oui, de double vérification. Est-ce qu'il vous est arrivé de renoncer, par exemple, à retranscrire un témoignage parce que soit vous aviez un doute sur sa provenance ou sa véracité, ou parce que vous n'aviez pas les moyens et eux sur place n'avaient pas le temps de vous faire les vérifications? Et donc, si jamais vous prenez ce genre de décision, sur quels critères, comment se prennent ces décisions-là?
Oui, alors c'est ça, le si possible, c'est quand vous avez un journaliste qui tous les matins doit penser à faire son travail, mais d'abord s'assurer que sa famille est en vie, qu'il faut trouver du bois pour se chauffer, de la nourriture et de l'eau, vous imaginez que quand vous lui dites « Et dis-moi, la personne sur l'image là qui a une chemise jaune, c'est qui ?» Il n'a pas toujours le temps, tout simplement. Donc le si possible, il vient de l'extrême difficulté de vie des journalistes à Gaza. Ensuite, oui, nous avons renoncé à certaines enquêtes. Par exemple, parce qu'on n'arrivait pas à caractériser l'origine d'un tir. Par exemple, parce qu'on n'arrivait pas à caractériser la position d'un journaliste qui a été tué. Parce que les analyses balistiques, les analyses sonores d'une balle nous disaient attention, là, nous n'avons même pas un faisceau d'indices. Nous n'avons pas de possibilité d'aller vers telle ou telle hypothèse. Donc oui, on a abandonné des investigations. On en a aussi bouclé beaucoup d'autres.
Et même question aussi sur les images qui parviennent de Gaza, parce qu'il y a les témoignages humains que vous recueillez via des chaînes d'interconnexion grâce au consortium international des journalistes. Et puis il y a aussi les images qui sortent de Gaza grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet. Là aussi, comment est-ce que, malgré tous les moyens technologiques dont on dispose, comment l'identification, la vérification, la datation peut se faire de manière fiable, avec aussi l'enjeu de faire attention de ne pas relier éventuellement quelque chose qui pourrait relier de la propagande, mais arrivait toujours à faire le distinguo.
Alors, quand on a une image comme ça en source ouverte, on essaye toujours de joindre directement la personne qui a posté cette image. On lui demande de nous envoyer l'original qui vient de son smartphone, en lui disant, mais même si c'est des séquences de 4-5 minutes, pas de problème, nous on regardera. Ça nous permet de voir aussi les métadonnées, ça nous permet aussi d'avoir un certain nombre d'informations qui nous permettent d'expertiser les images. Et de toute façon, quand on reçoit les images, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on n'hésite pas à rappeler des témoins, à dire, mais attendez, là il y a une pharmacie, est-ce que c'est bien la pharmacie de telle famille? Est-ce que c'est bien la pompe à essence de telle station? Donc là encore, recoupement, vérification. Le fait de travailler en réseau, ça nous permet de travailler aussi. Un partenaire que je voudrais citer qui est ARIJ, qui est un consortium international de journalistes d'investigation arabes, qui parlent arabe parfaitement, qui connaissent Gaza parfaitement, donc qui peuvent authentifier ces images. C'est l'accumulation des compétences qui fait qu'on ne tombe pas dans le piège de la propagande ou de la désinformation.
Dans une tribune signée par de nombreuses sociétés de rédaction, de journalistes, de médias français, y compris de Radio France, parue le 13 avril, on apprend que certains journalistes palestiniens ont reçu des menaces téléphoniques de la part de militaires israéliens, que certains ont été désignés comme membres de groupes armés. Alors, est-ce qu'il s'agit de cas isolés et quelles preuves l'armée israélienne apporte-t-elle sur ces allégations? Et il faut rappeler, je ne l'ai pas encore dit, que 170 journalistes palestiniens ont été tués depuis octobre 2023, dont 40 dans l'exercice de leurs fonctions.
Le fait de dire, comme le dit Israël, que les journalistes sont, ouvrez les guillemets, des terroristes, c'est devenu quelque chose de systématique. Quand un journaliste est tué, très vite il reçoit ce qualificatif. Les preuves, il n'y en a pas. Ou alors, nous avons un listing avec des noms. On a des fois des informations, ça avait été décrypté par le Washington Post, où il y a un journaliste, on nous dit il était membre du Hamas, il était membre de la branche armée. Ah bon ? On regarde le document, on se rend compte qu'il était sous-officier dans la branche armée du Hamas à l'âge de 9 ans. On peut avoir quelques doutes. Non, le Hamas ne recrute pas des enfants de 9 ans. Mais très bien, admettons que les Israéliens ont des preuves à nous faire valoir. Nous avons sollicité l'armée israélienne, nous avons demandé ces preuves et nous avons demandé l'authenticité des preuves. Parce que si je reçois un fichier d'un journaliste palestinien et que je veux l'expertiser, je dois aussi pouvoir expertiser ce que m'envoient les Israéliens. Et là, la réponse, elle est très très courte. We will not elaborate. Nous n'allons pas détailler. C'était ça quand on demandait des preuves, quand on demandait des éléments. Des journalistes sont qualifiés de terroristes sans aucune caractérisation, sans aucune image qui permet d'authentifier toutes ces déclarations.
Et il y a aussi des journalistes, je pense au cas que vous évoquez de Mohamed Al-Tanani, 26 ans, caméraman pour Al-Aqsa. Al-Aqsa, c'est un organe de presse qui a été créé par le Hamas. Il a été tué le 9 octobre alors qu'il couvrait une opération armée à Jabalia. Est-ce que ça veut dire que l'armée ne fait pas de distinction entre un journaliste d'un organe de presse émanant du Hamas et un combattant du Hamas?
Alors, on avait eu cette discussion lors de la première phase du projet Gaza, qui avait maintenant un an. La question avait été posée à un porte-parole de l'armée israélienne qui disait, oui, combattant du Hamas, journaliste de médias fondés par le Hamas, c'est la même chose et il mérite le même sort. À peu de choses près, c'est ce qu'il nous avait dit. Et finalement, l'armée israélienne avait fait marche arrière, était revenue sur ses déclarations en disant il y a un an, non, un journaliste n'est pas un combattant. Sauf que depuis un an, quand on voit les chiffres dont vous avez parlé et donc des décès et la caractérisation systématique des journalistes palestiniens comme terroristes ou combattants, on a quand même le sentiment que l'armée israélienne a tendance à vouloir mettre dans le même sac les journalistes qui apparaissent comme des témoins gênants et les membres militaires du Hamas.
Merci beaucoup Frédéric Mettezo. À Jabalia, le reportage inachevé de Fadi Al-Waidi, mais aussi l'enquête sur les tirs dont il a été victime et l'ensemble du Gaza Project. C'est à lire sur le site de Forbidden Stories. On fera un lien sur la page de Culture Monde. Merci beaucoup.
Merci.
لنا الله في كل حزن وهم غزاة إن بدمع ودم لنا الله وحجم الآلم لنا الله عند أنين الجراح وفقد الشهيد بساح الكفاح لنا الله عند أنين الجراح وفقد الشهيد بساح الكفاح لنا الله في كل وقت وحيد فمن عتم الليل يأتي الصباح لنا الله في كل وقت وحيد فمن عتم
Le jeune chanteur gazaoui Mohamed Assaf qui pleure dans cette chanson la destruction et les souffrances de Gaza et de ses habitants. Mohamed Assaf qui avait été repéré grâce à un télécrochet en 2013, Arabe Idole, et dont le parcours a fait l'objet d'un film Le chanteur de Gaza réalisé par Annie Abou Assad. Vous écoutez Culture Monde, seconde partie à présent de notre émission, direction le Yémen.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon. Les forces du commandement central des États-Unis ont lancé une série d'opérations comprenant des frappes de précision contre des cibles houthis soutenues par l'Iran à travers le Yémen, afin de rétablir la liberté de navigation et de réaffirmer la dissuasion américaine. Depuis des années, les houthis ciblent les navires et avions militaires américains. Ils ont également touché des navires commerciaux, y compris des navires sous pavillon américains, et menacent notre personnel à l'étranger. C'est une situation infernale que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi. C'est une position difficile dans laquelle nous mettons les fils et filles de l'Amérique. Sous la direction du président Trump et du secrétaire Hegseth, nous défendrons nos fils et nos filles.
Sean Parnell, le porte-parole du chef, en chef du Pentagone, qui s'exprimait le 26 mars, 10 jours après le début de l'offensive aérienne menée par les États-Unis contre les houthistes au Yémen. Environ 800 cibles ont été visées en vue de détruire les capacités militaires du groupe armé et de les dissuader de mener leurs attaques en mer Rouge. Quelle probabilité les États-Unis ont-ils d'affaiblir un groupe qui a démontré par le passé sa capacité de résistance et de survie face à des bombardements massifs? En quoi la stratégie des houthistes s'inscrit-elle dans un jeu régional complexe? On en discute avec nos deux intervenants, Laurent Bonnefoy, politiste, spécialiste de la péninsule arabique, chargé de recherche au CNRS et affecté au Centre de recherche international, le CERI, de Sciences Po, auteur de Le Yémen, de l'Arabie heureuse à la guerre, paru chez Fayard, et avec Quentin Muller, journaliste spécialisé, spécialiste entre autres du Yémen, et votre dernier ouvrage, L'arbre et la tempête, Socotra, l'île oubliée, vient de paraître aux éditions Marc Yali. On commence la discussion, comme chaque vendredi, avec Marc Semo.
Merci Mélanie. Alors oui, l'interminable guerre du Yémen se déroule sous les écrans radars des médias. Elle était, selon l'ONU, la pire catastrophe humanitaire au monde, avant que ce lugubre primat ne lui soit ravi par la guerre civile au Soudan. Le conflit se focalise toujours autour de la question des Houthis, qui, en juillet 2014, avaient lancé une vaste offensive depuis leur fief du nord, en conquérant la capitale du Yémen, Sanaa, et le grand port d'Hodeïda sur la mer Rouge. Issu du zaïdisme, qui est une branche du chiisme et représentant un bon tiers de la population yéménite, ils ont le soutien de l'Iran et sont aujourd'hui les derniers proxys de Téhéran encore opérationnels dans la région. Ils ont résisté aux interventions militaires de l'Arabie Saoudite et des Émirats. En solidarité avec le Hamas à Gaza, ils mènent depuis des attaques contre les navires occidentaux en mer Rouge et ont réussi à, occasionnellement même, à frapper deux ou trois fois le territoire israélien. La crise yéménite a pris ainsi de plus en plus une dimension internationale. Depuis la mi-mars, comme on le disait dans l'introduction, les États-Unis ont visé un millier de cibles, aussi bien des dépôts d'armes que des combattants ou des chefs de la rébellion, sans arriver pour autant à mettre fin à la menace sur la navigation en mer Rouge, qui est, on le rappellera jamais assez, une artère vitale pour le commerce maritime entre l'Europe et l'Asie. Rien que ces deux derniers mois, ils ont mené 320 attaques de navires. C'est donc l'impasse. On parle à nouveau d'intervention au sol des Saoudiens. Jusqu'ici, cela n'avait pas été très probant pour Riyad, qui, après des années d'enlisement sur le terrain, avait réussi par la négociation à se dégager de cette guerre sans fin. Ce serait donc un terrible retour à la case départ.
Merci beaucoup, Marc Semo. Alors, Laurent Bonnefoy, d'un point de vue militaire, quel est le bilan qu'on peut faire aujourd'hui de ces frappes américaines qui ont commencé le 15 mars sur les territoires tenus par les houthistes? Qu'est-ce qu'on sait de la façon dont cela a affecté leur capacité militaire?
Voilà. Une appréhension, un bilan au bout de 6 semaines ne peut être compris que si on fait le bilan aussi d'une décennie, en fait. Si on comprend que depuis donc 2015, l'offensive et la stratégie, notamment menée par l'Arabie Saoudite, a échoué et elle n'a, quand on fait le compte, que conduit à un renforcement des houthistes, renforcement qui se poursuit très largement, notamment parce que ils parviennent à travers leur communication ou leur propagande à s'ériger en finalement unique rempart des Palestiniens, comme ils ont pu être le rempart contre l'offensive des Saoudiens. Et donc avec un discours nationaliste, avec un discours qui également prétend défendre finalement le droit international, et on a vu à quel point celui-ci est malmené à Gaza, ils ont acquis finalement une position Maintenant, sur le plan militaire, on peut effectivement penser que les voies d'approvisionnement venant notamment d'Iran sont affectées par la dernière séquence. On peut penser qu'un certain nombre de dirigeants seront ou ont été déjà éliminés. Mais il est probable que, comme ailleurs dans d'autres, enfin sur d'autres terrains, cela ne soit pas suffisant. Il s'agit d'une guerre qui est profondément asymétrique et au Yémen comme ailleurs, cette asymétrie finalement joue très largement en faveur des plus faibles.
Vous avez rappelé comment les houthistes utilisent l'argument de la défense de la cause palestinienne dans leurs actions en mer Rouge. On peut aussi souligner qu'en termes de figure de défenseur du droit international, il y a un décalage, pour employer un mot un peu faible, entre ce qu'ils représentent, qui est un groupe qui gère la population de manière assez autoritaire, et ce discours-là, on va y revenir. Quentin Muller, c'est effectivement, il faut replacer ce qui est en train de se passer dans le temps long. C'est pas la première fois que les États-Unis lancent des frappes et le président Biden l'avait fait également. Quelle différence y a-t-il entre la campagne militaire qui est menée là actuellement par l'administration Trump et ce qui avait eu lieu précédemment, les années, les mois précédents sur les Houthis?
Oui, il y a une vraie différence, c'est-à-dire que sous l'administration Biden, il y avait des bombardements qui étaient très ciblés sur des dépôts d'armes ou sur des infrastructures militaires stratégiques Houthis. Et là, on assiste sous l'administration Trump à plutôt une campagne de ciblage et d'assassinat de chefs militaires houthis. Alors, il y a eu, moi j'ai des statistiques, il y a 200 officiers qui ont été tués houthis. Alors, ça s'est fait pas seulement à Sanaa, mais ça s'est fait aussi dans des régions un peu plus éloignées de la capitale, avec des chefs de section qui étaient particulièrement ciblés. Il y a eu aussi deux généraux de brigade, dont un qui s'appelle Yahya Al-Amran, qui était sous-gouverneur de la région de Saada, dont la famille est très très influente dans l'appareil des Houthis. Et lui, il a été ciblé alors qu'il était dans sa voiture. Donc ce sont vraiment des assassinats qui sont très calibrés, et on remarque qu'il y a d'ailleurs de la part des Américains un renseignement humain qui veut dire quelque chose, je trouve, qui veut dire que il y a des gens qui ne sont pas contents dans le nord du pays et qui sont prêts à donner des informations pour conduire à la mort de certains chefs militaires. Donc il y a eu aussi des pontes qui ont été ciblées, qui ont été blessées, qui sont pas morts. Alors pour l'instant, il n'y a pas de tête d'affiche, si je puis dire, qui ont été tués, mais ça a jeté un froid en tout cas dans les rangs des Houthis, et je pense qu'aujourd'hui ils sont plus précautionneux sur leur apparition publique, ils sont plus rares, et voilà ce que je peux dire.
Marc Semo.
Oui, alors une des surprises de cette rébellion houthi par rapport à 2014, au fil des années, a été le développement de leur capacité balistique. Au point, il y avait eu, bon, je crois que c'était en 2019 qu'ils avaient frappé l'Aramco en Arabie Saoudite. Ils avaient quand même profondément touché les capacités de raffinage saoudiennes. Et depuis, ils ont même réussi à lancer, alors je sais pas, on est à deux ou trois fois, des missiles jusqu'à Israël. Alors, on sait si c'est une capacité réellement autonome qu'ils ont réussi à développer, ou ils sont totalement dépendants de matériel qu'on leur envoie de Téhéran, ce qui, effectivement, serait plus facile à ce niveau-là de couper l'approvisionnement.
Laurent Bonnefoy?
Ouais. C'est un véritable enjeu. Alors, concernant l'Aramco, ils avaient revendiqué l'attaque, mais il y a un certain nombre d'études montraient que c'était probablement pas eux. Il reste que leur capacité a augmenté, et ce n'est pas deux ou trois missiles qui ont été envoyés, mais c'est des dizaines. Pas plus tard que ce matin, les sirènes dans le nord de Haïfa ont retenti, et un missile a été intercepté par la défense.
Vous parlez de ceux qui avaient touché la cible.
Oui. Effectivement, ce matin, les réseaux sociaux montraient aussi des images d'éclats qui avaient touché une école. Donc il y a une véritable, moi ce que j'appelle une capacité de nuisance qui existe. Évidemment, la société israélienne ou l'armée ne va pas chuter du fait de l'intervention des houthistes, mais il y a cette cette capacité aussi à faire peur en Arabie Saoudite. Et c'est la raison pour laquelle l'Arabie Saoudite se tient très largement en retrait. Maintenant, moi, je suis pas du tout un expert en matériel militaire. Il semble avéré, parce que on peut suivre là-dessus un certain nombre de rapports de l'ONU, qu'il y a un apport évident des Iraniens, mais que il y a aussi beaucoup de matériel qui est construit sur place et que les autistes eux-mêmes ont pu acquérir un savoir-faire qui est important. Et de la même manière, depuis le déclenchement de la guerre, on évoque beaucoup la présence de formateurs iraniens liés au Hezbollah, donc libanais, irakiens, mais il y a finalement bien peu de preuves matérielles. Récemment, il y a eu quelques interceptions, mais il s'agit souvent de matériel très très technique, très très précis, et non pas des missiles en tant que tels qui sont envoyés directement au Yémen.
Vous disiez qu'ils ont une capacité de nuisance qui est indéniable. Ils l'utilisent que ce soit en mer Rouge ou par l'envoi de missiles sur le territoire israélien. Comment comprendre la stratégie des houthistes ? Qu'est-ce qu'ils attendent de cette force de frappe potentielle qu'ils utilisent ? Comment est-ce qu'ils escomptent que cela serve leurs intérêts, que ce soit dans le cadre de la guerre au Yémen ou dans le cadre régional, Quentin Muller ?
Alors, je ne sais pas ce que t'en penses, Laurent. C'est difficile de les suivre, les outils, de connaître un peu leur agenda, leur stratégie. Mais moi, j'ai une théorie, c'est que avant le 7 octobre, la manière dont ils administrent ce territoire là, le Yémen du Nord aujourd'hui, hein, enfin les anciennes frontières du Yémen du Nord, à quelques exceptions près, c'est très brutal, c'est très dictatorial. C'est donc il y a des opposants qui sont arrêtés, il y a quasi plus de journaux, il y a des gens qui peuvent disparaître du jour au lendemain sur un soupçon. Les prisons sont pleines, il y a pas de liberté d'expression, il y a pas de liberté politique, de diversité politique, parce qu'avant il y avait quand même au Yémen plusieurs partis politiques, donc ça a quasi disparu au Yémen du Nord. Donc il y avait un mécontentement dans la population qui arrivait, qui montait, et le fait de trouver un ennemi extérieur, donc de défendre la cause palestinienne, bon, bah alors c'est vraiment inscrit dans leur idéologie, dans leur ADN, la défense de la cause palestinienne, c'est pas nouveau, mais le fait de s'attaquer et d'être la seule entité réelle à s'attaquer à Israël, c'est souder une population qui jusque-là était, enfin alors je dis pas que toute la population était hostile envers les Houthis, parce qu'il y a des gens aussi qui sont partisans, mais c'est une manière de s'absoudre des problèmes nationaux, voilà. Et même, enfin, leurs attaques ont plu même aux Yéménites qui vivent dans les parties, dans les zones gouvernementales. Donc c'est une. Alors je ne sais pas si c'est une stratégie ou s'ils le font de manière aussi très très naturelle, et le fait de s'attaquer à Israël, c'est aussi, comme on l'a dit, dans leur idéologie. Mais il y a de ça, je pense.
Laurent Bonnefoy.
Oui, je suis d'accord concernant la dimension liée à une forme de propagande, hein, une volonté de s'ériger aussi en défenseur d'une cause arabe, et donc aussi d'occulter la dimension particulière de leur identité. Alors Marc Semo tout à l'heure a évoqué qu'il s'agit d'un mouvement qui s'inscrit dans une identité qu'on appelle le zaïdisme, qui est spécifique au Yémen, qui est rattaché au chiisme, et c'est un moyen en s'appuyant sur la question palestinienne, de transcender cette identité religieuse particulière. Par ailleurs, et c'est un point qu'on a un peu de tendance à peut-être négliger quand on regarde les chiffres effectifs des attaques, hein, qui sont notamment compilés par une organisation qui s'appelle ACLED, Armed Conflict Location and Event Data, qui fait un travail assez similaire à ce que Forbidden Stories peut faire, c'est-à-dire utiliser des sources ouvertes pour comptabiliser les choses, établir un calendrier effectif des attaques. On perçoit que, eh bien, les houthistes ont mis en accord d'une certaine manière leur stratégie militaire avec leur discours concernant notamment le respect de la trêve à Gaza. Et dès lors que l'armée israélienne a repris l'attaque en mars contre contre Gaza, eux-mêmes ont changé de stratégie visant Israël, visant aussi donc les navires américains, britanniques. Tant et si bien que contre des navires de commerce, il n'y a pas eu d'attaque effective depuis fin décembre 2024.
Des négociations étaient en cours avant le 7 octobre 2023, des négociations entre l'Arabie Saoudite et les houthistes en vue d'une cessation des hostilités, puisque vous l'avez rappelé, l'Arabie Saoudite est engagée depuis mars 2015, cela fait tout juste 10 ans, dans un soutien au gouvernement internationalement reconnu du Yémen contre les houthistes. Est-ce que ces négociations sont aujourd'hui totalement au point mort, totalement enterrées? Et qu'est-ce qu'on sait des priorités de l'Arabie Saoudite pour le Yémen aujourd'hui? Peut-être Laurent Bonnefond.
Oui, c'est une séquence qui est intéressante parce que fin 2023, donc au moment où survient le 7 octobre, au moment où survient la première attaque contre un navire en mer Rouge, on était dans une phase qui était totalement différente, dans le sens où il y avait cet espoir de paix, notamment parce que l'Arabie Saoudite, depuis environ 3-4 ans, cherche à s'extraire de ce qu'elle constitue, de ce qu'elle perçoit à bon droit comme une forme de bourbier. Et elle l'a fait en s'érigeant. Alors c'est assez étonnant parce qu'elle s'est érigée en intercession, en fait, des parties yéménites
en médiateur d'un conflit auquel elle avait été partie prenante.
Effectivement, en considérant qu'elle n'était plus partie prenante de ce conflit-là. Et c'était un moyen aussi pour faire signer aux parties yéménites une forme d'accord qui protégerait finalement les Saoudiens des poursuites internationales. Depuis, et c'est là aussi où c'est tout à fait intéressant, et ça illustre peut-être l'impact aussi pour les États-Unis, puisqu'il s'agit de la thématique de l'émission, de se rendre compte que les Saoudiens, depuis mars 2025, depuis le déclenchement des attaques des houthistes, se tiennent très largement en retrait. Ils ne suivent pas la stratégie des États-Unis. Alors, il va y avoir la visite de Donald Trump à Riyad d'ici une quinzaine de jours. Il est probable qu'il fasse pression sur les dirigeants saoudiens, mais on perçoit bien que les Saoudiens considèrent aujourd'hui que le Yémen n'est plus réellement leur affaire. Et donc, ils sont prêts à accepter un certain nombre de demandes des houthistes qui font monter les enchères.
À l'inverse, est-ce qu'ils seraient prêts également à accepter certaines pressions ou demandes des Américains dans la perspective de ce calendrier, vous le disiez, d'une visite de Donald Trump en Arabie Saoudite? Quentin Muller, comment est-ce que vous voyez la façon dont l'Arabie Saoudite, le Royaume, a changé son braquet, a redéfini ses priorités?
Oui, moi je pense que leur discussion avec les Houthis avant le 7 octobre et cette espèce de... Bon, les accords de paix n'ont... Enfin, les discussions autour d'une paix n'ont abouti à rien. Sauf que ça s'inscrivait quand même sur un rapprochement sous l'égide de la Chine entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Donc la Chine avait réussi quand même à trouver un accord de paix entre les deux pays. Et donc, il était devenu quasi impossible que les Houthis et l'Arabie Saoudite reviennent sur le champ de bataille tous les deux. Aujourd'hui, ces négociations de paix, on l'a dit, sont au point mort. Et il y a un recentrage des intérêts saoudiens sur le pays, sur l'économie et sur des grands projets comme la Coupe du Monde 2030. Les Jeux Olympiques d'hiver, l'exposition universelle. Donc aujourd'hui, les Saoudiens considèrent que reprendre le conflit avec les Houthis, c'est risquer qu'il y ait un missile qui tombe sur une région touristique et que le pays ensuite, qu'il y ait une récession économique. Donc ça, les Saoudiens ne veulent pas prendre ce risque-là. Et pourtant, il y a quelques semaines de cela, un des articles de Bloomberg et du Washington Post ou du Wall Wall Street Journal, qui évoquait une potentielle offensive de grande ampleur menée par le gouvernement yéménite avec l'armée nationale, appuyée par les États-Unis, les Émirats et l'Arabie Saoudite. Or, tout de suite, on a vu que l'Arabie Saoudite et les Émirats ont démenti leur potentiel réengagement dans la guerre au Yémen. Et moi, j'ai interviewé quelques militaires qui sont des militaires yéménites qui sont côté gouvernement, qui sont à Marib et qui me disent que les Saoudiens ont repris leur coopération militaire qui avait largement drastiquement baissé avec l'armée nationale. Alors, ça ne veut pas dire que l'armée que les Saoudiens vont appuyer une potentielle offensive, mais en tout cas, il y avait de l'espoir dans les rangs de l'armée nationale, mais il y a une grosse incertitude aujourd'hui si les Saoudiens ou non vont se réengager militairement. Il est tout à fait improbable, hein, mais il y a en tout cas ce doute.
Oui, Marc.
Non, mais justement, non, mais c'est sur ça. Donc, ça serait par des conseillers, ce qui leur permettrait de ne pas, comme auparavant, envoyer des troupes qui ont montré quand même de piètres capacités combattantes, mais par des conseillers, et qu'effectivement, la pression américaine est très forte parce qu'il n'y a pas d'autre solution qu'une opération au sol via l'armée nationale.
En fait, les Américains ont dépensé plus d'un milliard là, de dollars en seulement quelques semaines de bombardement. Donc, ils savent que cet engagement militaire, ça leur coûte très cher et surtout, ça peut mettre en péril leur stock d'armement vis-à-vis d'une dissuasion vis-à-vis de la Chine. Donc, ils vont, je pense pas qu'ils vont continuer comme ça sur encore plusieurs mois. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un qui reprend un soutien aérien pour appuyer l'armée nationale, ça ne servira à rien, les outils resteront en poste. Donc c'est là que se posent, les regards se tournent vers l'ancienne coalition, donc les Saoudiens et les Émiratis qui étaient les leaders, mais jusque-là, ils ont décidé de ne pas s'investir outre mesure, c'est-à-dire de ne pas même bombarder les Houthis et reprendre leurs attaques aériennes. Parce que l'investissement saoudien au Yémen, ça a toujours été finalement plus ou moins un soutien aérien et logistique, mais pas plus. Il n'y a pas eu d'armée saoudienne d'énormément de soldats qui sont venus sur le terrain. Ils ont seulement appuyé jusque-là de manière aérienne l'armée.
Et du côté du gouvernement internationalement reconnu, qui est aujourd'hui basé dans la ville d'Aden, comment tout cela est-il perçu? Est-ce que les frappes américaines depuis le 15 mars sont peut-être perçues comme une opportunité politique, militaire? Est-ce qu'on sait s'ils ont eux aussi un soutien des Américains? Comment de l'autre côté, à Aden, on perçoit la situation, Laurent Bonnefoy?
Oui, on la perçoit de manière assez ambivalente. D'une part comme une opportunité effective. Alors des chefs militaires ont pu considérer que c'était une option de lancer notamment une offensive qui viendrait qui serait centrée sur notamment le port de Hodeïda, donc qui est sur la mer Rouge, qui aurait dû être libéré, pourrait-on dire, en 2018, mais il y avait eu déjà des pourparlers de paix qu'on avait appelé l'accord de Stockholm, qui avait acté finalement la mainmise des houthistes sur ce port, et c'est effectivement un verrou stratégique, mais c'est aussi un verrou humanitaire, parce que c'est par là que transite une large part de l'aide internationale, et c'est la raison pour laquelle de nombreux yéménites, y compris les dirigeants, et y compris ceux qui sont liés à l'Arabie Saoudite, parce que vous avez dit que le gouvernement est à Aden, effectivement, Aden est la capitale temporaire, mais l'essentiel des dirigeants vit encore en Arabie Saoudite et donc suivent la stratégie saoudienne. Et c'est la raison pour laquelle, l'Arabie Saoudite étant en retrait, eh bien eux-mêmes considèrent que finalement cette offensive n'est pas nécessairement la bienvenue. Et puis par ailleurs, il faut tout de même avoir à l'esprit que les 1000 frappes qui ont eu lieu en 6 semaines ont changé le quotidien des yéménites. Alors pendant jusqu'en 2022, ils ont vécu pendant 7 ans sous les bombardements saoudiens. Et là, ils vivent sous les bombardements qui sont quasi quotidiens, notamment dans la capitale. Et ça génère évidemment une situation de terreur pour les civils yéménites. Et des bien mauvais souvenirs qui font que probablement beaucoup d'entre eux considèrent que la position des houthistes, même si ils sont détestables, est préférable à une guerre ouverte.
la question humanitaire qui se complique aussi du fait de l'inscription des houthistes ou de Ansar Allah, qui est l'autre nom de l'organisation, sur la liste des organisations terroristes par les États-Unis depuis le 8 mars. Et cela a des conséquences sur l'acheminement de l'aide humanitaire. Vous avez aussi parlé du port d'Hodeïda, qui est un point clé pour l'acheminement de cette aide. Et je pense qu'il faut aussi rappeler que une grande partie de la population du Yémen est dépendante de cette aide alimentaire. Et que selon l'ONU, 19,5 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire, que 55% des enfants de moins de 5 ans sont dans une situation de malnutrition, Quentin Muller.
Oui, alors en fait, il y a ça, il y a aussi la suppression de l'USAID, en fait, qui était un garant financier d'action humanitaire, alors au Yémen, mais aussi partout dans le monde. Hein. Et la suppression de cette aide financière pour les ONG internationales fait qu'il y a des dizaines et dizaines de programmes qui vont s'interrompre. Et l'aide humanitaire, elle aide des millions de familles au Yémen. Plus de la moitié, en fait, des familles yéménites dépendent de l'aide humanitaire aujourd'hui. C'est une catastrophe. Donc c'est une catastrophe qui va toucher directement les populations civiles. Et par ailleurs, en parlant du gouvernement, il y a quand même une désunion de ce gouvernement avec différents groupes militaires qui se partagent le pouvoir, qui ne veulent pas tous d'ailleurs forcément se battre contre les Houthis. Et il y a un récent scandale qui a éclaté en mars, c'est que un document est sorti dans la presse yéménite qui révélait que le conseil présidentiel composé d'une poignée de personnalités politiques et militaires yéménites gagnait quasi 4 millions de dollars par mois. Alors que les Yéménites vivent sous le seuil de pauvreté et dans des conditions terribles de coupure d'électricité constante, en tout cas dans les zones gouvernementales, coupure d'électricité constante, pas accès à l'eau, pas accès à la nourriture fréquemment. Enfin, c'est et donc cela en fait aussi nourrit, renforce finalement les Houthis.
Vous écoutez Culture Monde, le chercheur Laurent Bonnefoy et le journaliste Quentin Muller sont nos invités pour parler de la situation au Yémen où les États-Unis mènent des frappes depuis le 15 mars. Il nous reste quelques minutes pour aborder le dessin de presse de notre partenaire Cartooning for Peace. Un dessin qui est aujourd'hui signé Nancy Ohanian, une caricaturiste états-unienne qui a imaginé l'édition spéciale d'un journal fictif intitulé Unfake News, nouvelle non falsifiée, et qui fait sa une sur les révélations des attaques américaines sur les Houthis au Yémen. Pete Hegseth livre les détails de l'opération militaire, peut-on lire, référence à l'invitation par erreur du rédacteur en chef de The Atlantic à un groupe de discussion sur les opérations militaires au Yémen par le secrétaire général à la Défense. Un dessin à découvrir sur le fil Blue Sky de Culture Monde et sur la page internet de notre émission. Une réaction peut-être à ce dessin et aussi à l'actualité de ce matin, puisqu'on a appris que le conseiller à la défense Mike Waltz a été nommé ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies, ce qui a été perçu comme une mesure de punition, d'éloignement en tout cas, suite à l'affaire du Signal Gate. Et donc peut-être que, contrairement au premier jour, première semaine où il n'y a pas eu de réaction, finalement, ces révélations ont eu un impact. Laurent Bonnefoy.
Oui, c'est un événement qui révèle bien davantage de choses sur l'organisation de l'administration Trump que sur la situation au Yémen. Mais c'est assez étonnant toujours de voir combien il faut avoir ce genre d'événement qui, d'une certaine manière, nous amuse parce que ça illustre.
Parce que ça paraît incroyable.
Ça paraît effectivement incroyable de voir la première puissance du monde si mal organisée pour justement arriver à parler de la situation au Yémen qui, depuis 10 ans, a connu une trajectoire qui a été celle d'un conflit local qui s'est régionalisé et qui aujourd'hui s'internationalise très largement. Et cette internationalisation, elle constitue une opportunité aussi pour tout un tas de pays. La Russie, alors on constate une forme d'engagement croissant. Et puis il y a eu les accusations portées contre la Chine qui fournirait les informations aux autistes pour le ciblage des navires.
Sur la Russie, vous le mentionnez dans votre dernier article sur Orient 21 sur la situation au Yémen, il y a une délégation de autistes qui s'est rendue récemment à Moscou. Que sait-on d'une collaboration, d'un partenariat qui monte en puissance avec la Russie ?
Alors c'est effectivement assez difficile de savoir, j'ai malheureusement pas d'antenne auprès des autistes ni auprès du Kremlin, mais simplement ce qui a été assez notable des derniers mois, c'est l'implication là pour le coup prouvée, substantialisée de combattants yéménites issus du côté autiste en Ukraine aux côtés des Russes. Donc il y a une circulation alors qui est assez réduite, mais qui montre bien que la Russie a trouvé au Yémen un nouveau levier. Et ce qui est frappant, c'est que au début de la guerre, en 2015, la Russie, parce qu'elle avait aménagé sa relation avec l'Arabie Saoudite et avec les Émirats Arabes Unis, se tenait éloignée de ce dossier-là. Et aujourd'hui, on perçoit que parce que, notamment, les Saoudiens s'en tiennent eux-mêmes éloignés, eh bien, la Russie, sans se fâcher avec les Saoudiens, peut s'impliquer davantage. Et c'est effectivement, bon, cette caricature, elle montre que parfois, on a besoin d'avoir ces événements un peu idiots qui révèle la désorganisation des Américains, des grandes puissances, pour s'intéresser à ces conflits qui, pourtant, méritent toute notre attention.
Qu'est-ce que ça dit, peut-être, aussi de désaccord au sein de l'administration américaine entre les tenants d'un isolationnisme pur et dur, sur lequel, d'ailleurs, Trump a fait sa campagne, et puis peut-être des interventionnistes que pouvait incarner Valls et des faucons, comme on les appelait à l'époque de la guerre en Irak, Quentin Muller.
Oui, on l'a dit, ça leur a coûté 1 milliard quand même en quelques semaines. Et puis surtout, dans les conversations, on perçoit que bon, ça coûte 1 milliard. Et puis surtout, ça va profiter aux Européens parce que ça affecte avant tout l'économie européenne. En fait, ces bateaux qui sont attaqués en mer Rouge et qui doivent finalement passer par l'Afrique du Sud et remonter. Les Américains, enfin l'administration Trump, on voit qu'elle est divisée entre les partisans de c'est encore un problème européen, voilà, et puis on va les laisser se débrouiller et on va pas intervenir, et d'autres qui considèrent les Houthis comme finalement un proxy de l'Iran, et donc s'attaquer aux Houthis, c'est affaiblir un peu plus l'ennemi numéro un américain pour les conservateurs américains. Donc c'est cette division-là qui est chez les nouveaux républicains version Trump, MAGA, et les anciens républicains version Bush.
Le chanteur Amar Alazaki, originaire du Yémen, avec cette chanson sortie en 2018. Pour terminer cette émission, merci beaucoup à nos deux intervenants. Laurent Bonnefoy, je renverrai vers votre ouvrage « Le Yémen, de l'Arabie heureuse à la guerre ». C'est paru chez Fayard. Et Quentin Muller, votre ouvrage « L'arbre et la tempête, Socotra, l'île oubliée » vient de paraître aux éditions Marc Yali. Et Socotra, donc, c'est cette île au large des côtes du Yémen que vous explorez à la fois dans point de vue journalistique et aussi personnel. Merci beaucoup Marc Semo, on se retrouve la semaine prochaine. Et lundi, c'est Julie Gacon que vous retrouvez pour une série consacrée à l'état de droit en Europe centrale et balkanique. Il sera question de la Roumanie au lendemain de l'élection présidentielle, du pouvoir serbe sourd à la contestation, de la Pologne qui tente de restaurer l'indépendance de ses institutions à marche forcée, et puis de la Bosnie au bord de l'implosion. Et dans un instant, les midis de culture.